C'était un dimanche comme tous les autres. Gris, froid, pluvieux. Toutefois, ce temps capricieux ne préoccupait pas le moins du monde un jeune homme affairé à trouver son chemin, un bout de papier à la main. Sur ce papier, on peut lire « Docteur A, 36 rue Régence, Bruxelles ».
Eh bien, bonsoir, mon cher docteur.
Bonsoir.
Alors, pour ce premier rendez-vous entre nous deux, je te propose de parler d'une série de jeux qui te plaît énormément.
Donc, on avait prévu de parler de la série Virtua Cop, mais à la fin, on s'est dit que c'était assez limité, donc on a décidé d'allonger le propos sur peut-être la possibilité de parler de Castlevania, peut-être, pour ce premier symposium.
Exactement, et donc pour ce premier symposium, pour ce premier colloque entre nous deux, au sommet, je te propose de commencer en septembre 86 sur NES, comme on l'appelle au Japon la Famicom, avec un jeu appelé Akumajo Dracula. Alors au fond, de quoi est-ce qu'il est question ?
Donc, je crois qu'on peut dire ceci, la série Castlevania, c'est une série qui est bâtie sur deux présupposés fondamentaux de base, c'est-à-dire de 1, c'est que tu es masochiste. Et de deux, c'est que tu as envie de battre Dracula un moment ou un autre. Alors Dracula, déjà, on peut imaginer qu'ils ont commencé à brouiller les genres, hein, en utilisant un vrai despote qui existait à une époque dans l'histoire de l'humanité, un personnage qui est certes sanglant, mais qui est sanglant pour diverses raisons. On a évidemment sa pure capacité martiale, c'est un homme qui était certainement très 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 violent. Sais-tu ce qu'il faisait à ses ennemis ?
Absolument pas. Il lui suçait le sang, peut-être ?
Oui, la légende le veut, mais à la base, c'était un mec qui était réellement connu pour empaler des gens.
Oh,
c'est pour ça qu'on l'appelait l'empaleur à la base. Donc, c'était pas nécessairement un gars très sympathique. Il était certainement moins sympathique qu'il a l'air sympathique dans la série Castlevania. Parce que quand il réfléchit de loin, il est assez classe dans la série Castlevania.
Il est assez classe, mais il y a toujours cette espèce de, comment dire, d'image du mal, mais du mal avec un certain raffinement dans son château clair de lune.
Oui, ce qui est absolument l'inverse de la personne qu'il était. Vois-tu, c'était un brigand de base. Je veux dire, c'est un type qui s'est petit à petit monté sur la grosse. C'était pas pour rien qu'on l'appelait l'empaleur. En somme, il avait autour de son château, dont on ne sait pas nécessairement s'il s'appelait réellement Castlevania, parce que ça n'a pas nécessairement de portance historique, ça n'a pas de portance purement archéologique. Tout ce qu'on sait, c'est que le mec, il avait un château. Et quand il est question de Castlevania en particulier, donc Akumajo Dracula, ça veut dire Demon Castle Dracula, en japonais, hein, sous-entendu se traduit en anglais, hein, du moins ce sens, et vouloir dire le château maléfique de Dracula, c'est l'histoire donc d'une famille, on pourrait d'ailleurs faire remarquer que l'histoire ne commence pas nécessairement avec la famille qui le porte, mais plus avec le fouet dont il est question, qui, d'une manière ou d'une autre, savent utiliser un objet qui n'est pas nécessairement dans l'arsenal nécessaire utilisé pour se battre contre le vampire hivernal, cependant c'est un personnage que l'on découvre petit à petit avec un petit scrolling horizontal. C'est un homme qui s'appelle Simon Belmont, qui lance l'affaire, qui lance un espèce de cycle millénaire où les gens vont se battre d'une manière ou d'une autre pour tuer Dracula, qui revient toujours à la vie.
Donc il a cette espèce d'influence maléfique même dans le jeu sur, on va dire, le reste d'une certaine région géographique sur laquelle il est implanté.
Je crois que le truc dans le bouquin, et si j'ai bon souvenir dans le livre de Bram Stoker, qui est quand même relativement, admettons-le, hein, la bible du jeu, plus encore que les films qui sont cités, on avait l'habitude de dire que Dracula opère sur le cerveau des gens qui sont relativement faibles d'esprit. Sous-entendu, il ne les trépanne pas, mais sous-entendu, il les influe à distance. C'est pour ça qu'il a la maîtrise des petits animaux, ce qui est, en fait, quand on y réfléchit posément, Castlevania est assez proche du canon de base du vampire traditionnel européen. Il s'est transformé en chauve-souris, bon, il s'est lancé du feu, mais ça c'est parce qu'il a bien besoin d'une attaque de loin, on va excuser les petits japonais qui ont fait ça, il s'est se transformé en brouillard, bref, il a l'arsenal de base qu'on pourrait considérer être l'arsenal de base de tout vampire qui se respecte. C'est relativement plaisant, je veux dire, il y a plein d'œuvres où, par exemple, je ne sais pas moi, ils ont des particularités physiques qui sont un peu en dehors de ce qu'on aimerait voir d'habitude, traditionnellement, sans citer de nom.
Tu me disais tout à l'heure qu'il faut être assez masochiste pour apprécier Castlevania. Qu'est-ce qui, sur le premier jeu, en tout cas, et qui apparemment suit sur le reste de la série, fait que le jeu est plaisant à jouer ?
Qu'est-ce qui fait que le jeu est plaisant à jouer? C'est évidemment un jeu qui est relativement bien fait du point de vue du gameplay. C'est-à-dire qu'il a, il a plusieurs décisions de gameplay qui font qu'il est relativement plaisant tout en restant totalement frustrant. Par exemple, il y a un petit délai sur l'attaque.
D'accord.
Tu peux pas diriger ton saut pendant que tu sautes. T'as donc la nécessité de toujours surveiller la jauge de cœur. Il y a des niveaux vers la fin où tu passes la majorité de ton run à... comment dire, les conserver au lieu de les utiliser, tout ça parce que tu sais que le boss à la fin est particulièrement mouse. Je pense à un niveau en particulier qui est probablement le niveau où la plupart des gens qui ont abandonné, qui est le niveau, si j'ai bon souvenir, 13B, ouais. où t'as l'intégral couloir de la mort, et le couloir de la mort mène à la mort. Je veux dire, c'est pas une blague, mais la logique veut que le couloir de la mort mène à la mort. Et le couloir de la mort, c'est un truc où tu te bats contre des sinusoïdales, car admettons-le, c'est un peu le jeu qui vous a appris que faire des mathématiques pouvait être terrifiant. Il y a des sinusoïdales qui sont évidemment recourbées par la courbure de petites méduses et qui vous empêchent petit à petit de vous battre contre les deux axes armor, les deux axes armor qu'il y a juste avant Dracula, enfin juste avant la mort, qui est juste avant le niveau de Dracula. Ben, c'est un peu des trucs que tu peux taper dessus si ça sait de coups.
D'accord.
Si ça sait de coups, en sachant que chacun de leurs coups t'enlève un quart de ta vie, ça te fait 14 coups que tu dois porter en évitant 3 sinusoïdales simultanées, ce qui fait que c'est théoriquement impossible. Enfin, c'est théoriquement impossible pour la plupart des gens qui ne se fatiguent pas à le faire. C'est évidemment, bien entendu, totalement impossible, et cela prend à certaines personnes quelques années, rien qu'à apprendre l'enchaînement nécessaire à finir le jeu.
Donc il faut vraiment des skills de joueur de shoot'em up, finalement.
Oui, et alors c'est très bien remarqué de ta part, parce que c'est vraiment la compagnie qui a fait évidemment, logique, c'est la série Gradius, si j'ai bon souvenir. Oui, Gradius, Parodius, tout ça. Donc oui. Konami, c'est évidemment une époque où ils sont en train de créer des gameplays d'arcade, et c'est un gameplay qu'on peut faire remarquer, qui a été lui aussi adapté au monde de l'arcade, même pas 2 ans plus tard, dans Haunted Castle.
D'accord.
Qui est un Castlevania sauf le nom, mais comme dirait évidemment Shakespeare, qu'importe le nom. Pour peu qu'on ait l'ivresse, ce n'est pas ça. Qu'est-ce qu'il disait Shakespeare? Il disait, oui, quel que soit son nom, la rose sent toujours aussi bon.
Merci pour ce proverbe, évidemment.
Il aurait été mieux s'il était sorti bien la première fois, mais n'empêche.
Mais ce n'est pas grave, mon cher docteur. Je pense qu'on va évoquer un petit peu la suite. L'on entend souvent parler à demi-mot dans l'ombre de bars sordides aux quatre coins du monde. Un certain culte de Castlevania, pourrais-tu nous résumer les principaux symptômes de ce culte?
Alors, on parle souvent d'un culte autour de Castlevania, il est à peu près aussi significativement puissant que celui qui est autour de Dracula. Alors, pour donner un petit vernis historique à la question du quel est le culte autour de Dracula, c'est simple. Comme vous le savez, si vous avez lu les jeux, et les jeux sont l'évangile, bien entendu, les personnes qui sont dans le culte de Dracula tentent toujours de le résurrecter, de le ramener à la vie, de lui faire un retour parmi le monde des vivants. Donc, comme dans les films de Terence Fisher, où Dracula meurt de manière répétée, on le ramène à la vie. Alors, selon les mêmes artifices, qui sont par exemple, je ne sais pas moi, dans le 2, on l'a coupé en plein de petits morceaux, il faut le ramener à la vie. Dans le 3, c'est pareil, mais avec des organes. Dans le 4, on l'a ramené à partir de ses cendres, ce qui est un peu comme Dracula, Prince of Darkness, le pire de la série. Des choses comme ça. Et le culte autour de Castlevania revient toujours à faire revenir à la vie certains morceaux de la série. Alors, on pourrait faire remarquer que le culte autour de Castlevania est efficace depuis 1986. 1986, ça va bientôt faire quelque chose comme 42 ans. 42 ans plus tard, il est temps de tirer un petit constat, c'est que la série Castlevania continue à se vendre.
32 ans. Attention, ne nous trompons pas, 86, j'irais même jusqu'à dire que ça fait plutôt...
26 ans,
oui.
Quelque chose comme ça. Cependant, admettons que nous soyons dans le futur. Et donc, salutations aux spectateurs du futur. Il faudrait quand même remarquer ceci. Donc, on en ramène des petits bouts à la vie. On a donc eu, malheureusement, en plein milieu de la contestation de la chose, de la carrière de Castlevania, on a eu un changement de gameplay, un changement de paradigme qui a fait que finalement, ils se sont plus dirigés vers les terrains un peu moins balisés de Metroid et tout ça. C'est ce qu'on appelle un peu le syndrome symphonie dans la nuit de la série.
Ok, d'ailleurs on parle aussi souvent de genre de jeu classifié de Metroidvania, on y reviendra peut-être un petit peu
voilà,
plus tard.
Voilà, alors pour une bonne et simple raison, Metroid, pourquoi? À cause de Hemorrhoid, ce qui quand on le découpe et quand on le met à la fin fait Hemotoroid en japonais, ce qui fait qu'évidemment on prend le début et on met Vania à la fin à cause du goût de la délicieuse glace qui est celle préférée de Kenji Igarashi qui est la vanille. On met les deux ensemble, on a Metroidvania, évidemment. Non, enfin, on a Metroid. Donc, pour peu que les gens aient la base de la culture nécessaire, Gunpei Yokoi sort un jeu extraordinaire en quelque chose comme, je ne sais pas, vérifie, 85, 86, quelque chose,
dans les grimoires.
Voilà, quelque chose comme les premières années de la, Metroid System, j'allais dire, de la NES. Mm-hmm. Moins de la Famicom, qui voulait dire Family Computer, blablabla. L'idée est simple, on va proposer aux gens une gigantesque map, on va leur proposer de la découvrir en ayant certaines capacités qui permettent de faciliter le transport autour de ceci. C'est donc ce qu'on appelle le petit système de gameplay Metroid. Il sera adapté petit à petit avec Castlevania 2, Simon's Quest, où ils ont décidé d'en faire une repompe qui n'est pas particulièrement efficace, sauf si vous aimez ça. Et j'ai vu une vidéo sur internet qui explique toutes les décisions de design qui auraient pu être faites afin de rendre Simon's Quest efficace. D'ailleurs, pour peu que vous soyez intéressé par la chose, il existe effectivement une ROM modifiée où la traduction a au moins été réalisée de manière efficace, de manière à ce que vous puissiez, par exemple, je ne sais pas moi, imaginons-y, vous êtes masochiste, vous avez envie d'y jouer. Mm-hmm. C'est pas impossible, peut-être qu'un jour t'auras envie d'y jouer, tu te diras « Oh, j'ai envie de voir pourquoi Simon's Quest, tout le monde le déteste. »
Voilà.
Tu mets la ROM dans ta machine et tu te dis « Ah oui, mon Dieu, c'est dur quand même. Mm-hmm. » Alors, le problème de ce type de gameplay, c'est qu'à l'époque, il est utilisé avec une forme de dilution. C'est-à-dire que faire un jeu, ça coûte cher.
Oui.
Donc on va diluer le truc et on va essayer de se débrouiller pour que ce soit plus un peu farmer les cœurs qui sont nécessaires à acheter des trucs plutôt que le gameplay qui soit réellement difficile. Ça c'est pas grave, ça a été abandonné pendant près de 15 ans parce qu'ils ont ensuite continué avec Castlevania 3, Super Castlevania, Castlevania Bloodlines qui est celui sur Mega Drive bien entendu. Voilà. Et peut-être que le plus intéressant dans la série, c'est de se dire que finalement, Konami n'a pas assez de séries de grosse importance que pour laisser réellement Castlevania se reposer. On l'a vu assez récemment avec un jeu comme Lords of Shadow.
Oui, on y reviendra.
Ou on peut le faire maintenant. Lords of Shadow, c'est quand même un peu le jeu qui a essayé d'en faire un God of War, un Devil May Cry-like. Et c'est un titre qui a certainement été bien fait par les gens qui travaillaient dessus. Alors, on dit souvent qu'il est produit par Hideo Kojima. Il a certainement plus aidé à mettre ses équipes sur, disons, l'optimisation du code 3D, tout ça. Il leur a donné un extraordinaire truc, par exemple. C'est des petits Espagnols, Mercury Steam, qui ont travaillé sur le jeu. Il leur a dit, ce serait pas mal, par exemple, que les dents dans la bouche soient assez sombres afin qu'on ne voit pas le fait qu'il y a un trou dans la bouche de vos personnages. C'est quand même aussi le niveau d'incroyable incapacité à faire des jeux qu'on avait face aux yeux, tu vois, c'est un truc... Non, on n'a pas réfléchi à ça, parce qu'on n'avait pas joué à Soul Calibur, tu vois. C'est triste, mais c'est comme ça. Et on en est où, là?
Alors, écoute, là, actuellement, on en est à notre...
Quels sont les principaux symptômes? Alors, les principaux symptômes, c'est d'abord une perte de sommeil, deuxièmement, une perte d'appétit, troisièmement, une certaine photophobie...
Une répulsion pour les gousses d'ail,
Une répulsion pour les gousses d'ail. C'est ça le problème, c'est que le jeu a été relativement mal pris en Italie, où la plupart des gens sont devenus des vampires immédiatement. Et vu qu'il y a beaucoup de soleil, beaucoup de gousses d'ail, c'est un truc qui a réalisé certains problèmes. C'est pour ça que Silvio Berlusconi a quitté le gouvernement.
Très désagréable, la transformation commençait à se faire et forcément fallait...
Mais je sais pas si t'as vu son physique, mais tu peux mettre autant d'autocuiseurs pour faire semblant d'être bronzé que tu veux, mais Berlusconi n'arrivait pas à donner le change.
Ouais,
il est certain que ce n'est pas... Quand tu réfléchis, que tu rajoutes le côté vampiriste à ses dernières années en fonction,
tu te rends compte... Ah oui, la quête pour de jeunes, oui, tout à fait.
Oui, les petites jeunes, les prostituées, les femmes interlopes, le fait qu'on lui reproche d'avoir fait revenir des rats à Venise, des choses comme ça. Non, il semble logique que Berlusconi a été atteint de Castlevanite aiguë.
Merci, mon cher docteur, pour avoir mis à jour un tel complot international.
De même, je pense que si on s'en rend compte, la raison pour laquelle Mitterrand a si bien tenu avec un cancer, je crois qu'on peut penser que c'était une question qu'il était vampire
Cresson.
Aussi.
Édith Cresson. Enfin, voilà, ça, après, ce sont les arcanes de la politique, et malheureusement,
nous ne sommes pas, évidemment, nous ne sommes pas un symposium de politique, nous laissons ça, bien entendu, à nos amis d'en face.
Hélas, pour l'heure, l'évolution de la série Castlevania passe par une volonté de renouveler le titre à travers les âges. Est-ce qu'on peut dire que l'âme de la série survit ou peut-on, parce qu'on a l'expression, dire que la transplantation est un succès?
Alors, déjà, Castlevania, encore plus d'un jeu, c'est une attitude, c'est une atmosphère, c'est quelque chose qui repose très bien sur la musique, on en a souvent parlé, Michiru Yamane crée des magnifiques musiques, les compositions de la série, on se souvient des incroyables morceaux de la série sur Super NES, moins incroyables séries sur Mega Drive, parce qu'il n'y a qu'un seul jeu, bien entendu, et que la musique est sur Mega Drive, cependant, on peut dire ceci, si ça se passe la nuit, s'il y a de la musique lancinante, s'il y a un combat terrible qui vous pousse de gauche à droite, droite et de droite à gauche, peut-être même de haut en bas ou de bas en haut, il y a une partie, une particule élémentaire de ce qu'on pourrait transférer dans son petit esprit vers la case. Castlevania, c'est bien ça, Castlevania. C'est une question, voilà, admettons-le, c'est un jeu bucolique, c'est un jeu qui a certainement plus de rapport, on va dire, avec le romantisme dans sa représentation graphique et dans sa représentation audio que la plupart des autres systèmes de jeu. Je veux dire, on peut bien évidemment se dire qu'un jeu comme Mario est enfantin, là où Castlevania tente d'être semi-romantique.
D'accord.
Je pense qu'on peut donc considérer que la série ne survit absolument pas à la transplantation dans le monde moderne pour diverses raisons que je vais énumérer maintenant.
Oui.
Premier point. La musique. Alors la musique, on essaye toujours, même dans les nouveaux, de retaper des vieux titres qui sont populaires, de les gens ils s'en souviennent parce qu'ils y ont joué. C'est logique après tout, ça s'appelle faire un copyright musical, c'est-à-dire jouer sur cette incroyable perception de la marque afin de pouvoir la faire reconnaître. C'est pas grave, ça arrive, c'est, pas, c'est comme si, c'est comme ça. Le fait est que Castlevania s'est relativement mal pris le tournant de la musique orchestrale dans l'histoire de son... de son histoire. Ce n'est pas extraordinairement fabuleux comme phrase, mais on va la garder quand même. Donc,
ce n'est pas grave.
Castlevania, Lament of Innocence et sa suite, dont le nom m'échappe totalement, où on jouait un petit gars qui était en fait un alchimiste parce qu'il avait été mis au service de Dracula. Voilà, la musique était pas mal, mais la musique était finalement...
Bancale.
Oui, enfin, on pourrait dire aussi qu'elle était un peu... Je cherchais le mot claquante.
Clinquante.
Clinquante, voilà, c'est très très gentil de ta part. Donc clinquante, le terme clinquant, hein, qui revient évidemment du latin clinquere, des choses comme ça, ce n'est pas nécessairement très important, cependant dites-vous ceci. S'il y a de la musique dans votre jeu vidéo et que la musique dans votre jeu vidéo propose finalement de survivre de manière relativement hypnotique, car, admettons-le, c'est aussi une forme de gameplay qui a besoin de musique qui est en boucle.
Un encouragement.
Un encouragement. Disons ceci, c'est qu'on peut savoir, on peut limite comprendre un jeu Castlevania par l'enchaînement de à quel point en est-on de son avancement. C'est un jeu qui est réactionnaire dans son gameplay.
Oh.
Et je pense pas qu'on en a déjà parlé, ça c'est un point assez intéressant. C'est pas un jeu qu'on va mener par le bout du nez, c'est un jeu auquel on va réagir afin de lui laisser un certain type de distance entre toi et lui.
D'accord.
Admettons, par exemple, un jeu... traditionnel, c'est tu vois le jeu, tu le devances, tu le baises. Admettons.
Tu connais les pièges.
Tu connais les pièges, tu sais aller un peu plus vite, tu sais aller un peu, par exemple, c'est ça qui fonctionne très bien dans Prince of Persia. Tu peux le devancer, alors le jeu tombe comme un château de cartes derrière toi.
D'accord.
Castlevania, c'est un titre qui va te faire avancer juste assez pour te faire avancer jusqu'à un point où tu t'es mis en danger. Parce que qu'on en parle souvent, mais c'est pas nécessairement, à part dans l'épisode sur Super NES, un jeu où le saut est nécessairement quelque chose d'évident. D'ailleurs, on a vu ça, ils ont sorti, je crois que c'était Castlevania Legends, qui l'ont ressorti sur WiiWare, et ils ont gardé ce fait que le saut est encore très 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 hasardeux. C'est un pari sur soi-même, en fait, sauter dans Castlevania. Tu avances, tu vois le truc commence à te dire « Oh, je vais commencer à approcher dans une zone où tu pourrais éventuellement être en danger », prenons l'exemple d'une méduse, qui, basée sur un système sinusoïdal, plus que cosinusoïdale, parce qu'on sait bien qu'elle monte avant de descendre, elle ne descend pas avant de monter, ça fait une différence. Voilà, l'on sait donc qu'à partir de tel endroit, tu vas prendre le pari de sauter et on espère que tu as réussi à prévoir que l'écoulement du jeu te laisserait la place d'y être. Gagner dans Castlevania nécessite toujours de se plier à la manière dont le jeu veut qu'être joué. C'est un jeu qui est dirigé, c'est un jeu qui est littéralement dictatorial dans les dictats de son gameplay. Cependant, il te laisse toujours la possibilité de te timer par rapport à la musique. Et donc, c'est très important de se dire que l'ambiance, la musique, effectivement, font un jeu. Font un jeu davantage que les repompes de Castlevania ont pu l'espérer. Alors, les repompes de Castlevania sont rares, admettons-le. Il en existe finalement que deux ou trois exemples très simples et on va garder peut-être le plus frais en tête, c'est-à-dire Master of Darkness qui est sorti sur Mega Drive, sur Master System et sur Game Gear.
Oui, à une époque où la licence Castlevania n'était pas encore arrivée sur console Sega, donc il y avait besoin, il y avait une place à occuper sur ces machines.
Voilà, alors Sega, ils n'ont pas été fous, ils ont lancé une de leurs équipes de portage dessus qui s'appelait Sanritsu. Qui est devenu Sims. Depuis, c'est eux qui ont travaillé, par exemple, de manière assez amusante sur Sega Bass Fishing. C'est eux qui l'ont créé.
D'accord.
Voilà.
Ah oui, gros changement de
gameplay. Gros changement de gameplay, de taquiner le goujon à taquiner des monstres terribles. C'est un peu une différence. Alors, Master of Darkness, qui s'appelle aussi Vampire, ou Vampire Master of Darkness, c'est un peu le nom en Amérique, en Europe et au Japon. Ils ont cherché, ils ont seulement trouvé la même chose trois fois, c'est terrible. Donc, Vampire Master of Darkness, c'est un peu un jeu où on se bat pas cette fois-ci contre Dracula, mais quelle est l'autre incroyable personnalité de l'histoire, de personne de l'histoire humaine qui vont sortir, à ton avis? Donc t'as Dracula dans un coin, qu'est-ce que tu sortirais des pages de l'almanach pour faire pareil?
Très très bonne question. Margaret Thatcher. L'histoire de Frankenstein peut-être.
Même pas. Plus Angleterre et victorianisme.
Effectivement, je ferais ressortir Margaret Thatcher, mais malheureusement elle n'est pas encore morte.
Non, et c'était bizarrement Richard Nixon. Mais en fait, c'était Jacques l'Éventreur. Mais on n'est pas tombé loin. Donc, Jacques l'Éventreur, Dracula, l'effet est assez bien. Seulement, ils se sont foirés sur deux ou trois trucs. Déjà, on peut sauter. Et on peut sauter de manière particulièrement fluide. On peut aller là où on veut et on saute trois fois la taille de son personnage. Ce qui est amusant, vu que le personnage, le héros de ce jeu, s'appelle Ferdinand Social.
Ferdinand Social.
Oui, voilà, c'est un nom. Tu voudrais l'avoir, tu saurais pas l'avoir. C'est ça qui...
Ferdinand Social.
Fernando Sociale. Dans la version espagnole. Et toujours est-il que donc c'est un charmant petit jeu, il est absolument insupportable, mais voilà, il existe. Et alors, à l'époque, Sega n'avait pas encore de Castlevania en propre, et ils l'ont eu. Ils l'ont eu à un moment où la série a fait une espèce de bijection entre ce qui était super et ce qui ne l'était pas.
D'accord.
Il y a eu donc le Super Castlevania 4, que certains appellent finalement Castlevania 4, parce que le Super n'est pas plus qu'un artifice, dirons-nous, de vente.
Oui, c'était pour, ça allait avec cette espèce de marque de fabrique de mettre Super devant tous les jeux Super Nintendo, et chez certains jeux Mega Drive, c'est-à-dire de placer un Mega.
Voilà.
Enfin, c'était rare.
Mais ce qui est aussi amusant, c'est que parfois l'effet s'inverse, et tu as, somme toute, aussi le jeu Mega Drive qui essaye d'être Super.
Oui.
Avec Super Shinobi. Qui était certainement plus Shinobi que le précédent Shinobi, qui était moins super. Cependant, on a des situations qui sont cocasses comme ça. Je pense que s'ils avaient voulu prendre beaucoup plus d'avance, ils auraient pu appeler ce Castlevania 4 Super Castlevania 64. Et on aurait évidemment gagné du temps. Ce qui nous permet évidemment de repasser sur un autre truc qui est... Peut-on considérer que l'âme de la série surtout en Syrie, on se retrouve dans une situation où, par exemple, dans le monde de la 3D, on a déjà eu plusieurs exemples, et on a eu plusieurs exemples qui sont tous concomitants à nous dire que la théorie de travail selon laquelle Castlevania ne survit pas à la 3D est relativement bien ancrée dans nos têtes. On a Castlevania 64, on a sa suite, et c'est un peu assez significatif de se dire que c'est des jeux que tout le monde fait ce qu'il peut pour les oublier.
Oui, alors, en même temps, juste une chose sur la Nintendo 64 et sur la PlayStation, et surtout sur la 64, on avait quand même des consoles qui avaient des jeux plutôt pâteaux. Quand on se souvient de Mario 64, qui est un très bon jeu, attention, mais on voit quand même que certains mouvements, les mouvements sont relativement plus lents que ce qu'on a aujourd'hui avec une GameCube, avec une Wii, du côté de chez Nintendo, avec d'autres consoles comme la PlayStation 2 et la PlayStation 3. Donc forcément, à mon avis, adapter le gameplay de Castlevania à des consoles qui avaient ces espèces de limitations me semble un peu foireux à la base.
C'est ça, parce qu'en plus, tu pourrais t'imaginer qu'il y a un point commun entre les deux. Le personnage bouge lentement. Il mange peut-être lentement, ce n'est pas très important. On pourrait poser des questions à Koji Igarashi si jamais on le croise. Pensons-y dans le futur. Donc, le mouvement, la vitesse de mouvement est déjà normalement pas taute à la base. Si tu rajoutes à ça l'improbabilité de sauter sur des plateformes en 3D alors que le jeu, et d'ailleurs avouons-le, Konami en soi, ils n'ont jamais grand-chose fait dans le domaine de la plateforme en 3D. Il n'y a pas d'exemple particulier qui me vient à l'esprit, mais que même quand ils ont porté Goemon sur 64, ils l'ont encore fait de manière relativement, on va faire un scrolling le plus possible.
Oui.
Ils se sont un peu protégés, en quelque sorte.
Ça ressemblait à un Kirby, finalement, Goemon, pour ça.
Voilà. Et ce qui est assez amusant, c'est que, de toute manière, l'autre Kirby ressemblait vachement plus à un Goemon aussi. on s'est retrouvé au milieu. Alors, ils ont certainement fait pareil, parce qu'ils avaient des cinématiques, mais toujours est-il que, voilà... Konami, la série, survit certainement plus dans le cœur des petits gens qui sont toujours prêts à acheter le même jeu. C'est assez significatif de se dire que, voilà, sur DS, on ne sait pas encore ce qu'ils vont faire dans le futur de Castlevania en ce qui concerne la question de continuer la volonté Metroidvania de la série, mais voilà. Toujours est-il que le même jeu, tous les 3 ans, ça marche. À peu près la même chose 3 fois de suite avec, c'était quoi ? On a d'abord eu Dawn of Sorrow sur DS, puis après on a eu Portrait of Ruin... Et on a fini avec Order of Ecclesia.
Oui, il y a eu un épisode sur Wii, je crois bien que c'était celui-là, si mes souvenirs sont bons.
Attends, l'épisode sur Wii, c'était un jeu de baston, note.
Alors j'ai dû me
Castlevania Chronicles.
Chronicles, très bien, excuse-moi.
Non, mais c'est très bien, on peut en parler un bref instant. Le game design était absolument nul, et c'était aussi un jeu de combat entre des personnages de la série. Alors pourquoi, on n'en sait rien, comment, c'est encore plus douteux, mais surtout, dans quel but? Et le but était de vendre des jeux, seulement ils se sont foirés.
Bah, ils pensaient qu'avec leur, justement, avec leur, leur design de personnages très, très classe, regarde-moi au milieu de la nuit...
Oui, mais ils ont refaire faire, c'est ça qui est fou.
Ils ont refaire faire
par le mec qui s'occupait de dessiner la série Death Note. Donc tout d'un coup, tu te retrouves avec...
Curieux.
C'est curieux. Certains diraient que c'est une marée noire curienne, tellement c'est curieux.
Je te propose de revenir un tout petit peu dans le passé par rapport à la série Castlevania, parce qu'on m'a beaucoup, beaucoup parlé, on m'a dit de me méfier d'une symphonie dans la nuit. Ça veut dire quoi en vrai humain?
En vrai humain, alors on en a déjà parlé, on en reparlera. On va se méfier d'un système de gameplay qui n'évolue plus et qui n'a été réalisé de manière parfaite qu'une seule fois. Et je vais revenir sur ce que je viens de dire parce que c'est une insulte directe à tous les fans de la série. Quand on parle de Symphony of the Night, on parle donc d'un jeu qui est sorti sur Saturn et PlayStation, logiquement, hein, mettons les petites bases. C'est celui qui a commencé à nous faire penser que le Metroidvania était possible, tout simplement parce que c'est un système de gameplay qui est efficace, qui est relativement judicieusement foutu. Il réutilise bizarrement les canons de la série pour en faire autre chose. Alors, quand on dit qu'il réutilise les canons de la série, il en réutilise aussi les éléments constituants. D'accord. On parle souvent de Castlevania, et il retape les pixels dans les mêmes jeux, c'est là que ça a commencé. Donc, recyclage de sprites, recyclage de personnages, et c'est pour ça qu'on s'en méfie finalement, parce que le fait est que personne n'a pu dire « j'ai joué un meilleur Symphony of the Night que Symphony of the Night ». Souvent, on parle souvent de les opus sur Game Boy Advance. Et les opus sur Game Boy Advance avaient quelque chose de particulier. Ils étaient réellement portables à une époque où les jeux l'étaient encore relativement peu.
D'accord, donc il y avait une faculté de pouvoir se faire des petites parties de...
Cela avait ça, au moins. Tu vois, c'est genre, tu peux le transporter, tu le transportes, tu le transplantes, et le gameplay est relativement bien foutu pour une machine qui a 4 boutons. Maintenant, si tu sais jouer à la version Super SNES, à la version Saturn ou à la version PlayStation, c'est tout aussi bien qu'autre chose.
Très bien.
Voilà.
Ah, merci. On va maintenant évoquer, peut-être le futur de Castlevania. Alors, Castlevania, est-ce que c'est une série Konami à la retraite ou simplement en mauvaise posture?
Alors, la question se pose de est-ce qu'ils réussiront finalement? Parce que j'ai souvenir que, par exemple, Lords of Shadow, ce n'est pas nécessairement le jeu que la plupart des gens avaient envie de voir, mais il s'est vendu. Je ne sais pas nécessairement à combien d'exemplaires, mais il s'est vendu. J'imagine qu'il s'est même relativement suffisamment vendu pour qu'on n'en tire pas une suite.
D'accord. Oui, donc c'était... Oui, c'est limite, effectivement.
C'est relativement limite. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce qu'avec l'explosion des budgets, on a besoin d'un plus gros type de vente pour rentabiliser la chose? Oui, évidemment. C'est-à-dire, Castlevania, à la base, le premier sur NES, n'est pas un jeu qui a fendu le monde des charts de l'univers en ayant une incroyable vente. C'est sans doute simplement un million seller. Pareil avec Castlevania 4, Castlevania 4 qui reste sans doute l'un des éléments les plus populaires de la série, c'est-à-dire qu'il a aidé à vendre de la Super NES, puis après les gens ils se sont dit « Oh, ben on a besoin d'une Super NES pour jouer à des jeux comme ça ». Et finalement, on peut se dire qu'avec le futur qui arrive petit à petit, le présent devient un passé, le passé devenant finalement le futur. Non, ça n'a aucun sens, cette phrase.
L'écoulement du temps, tout à fait.
Voilà, je suis en plein time paradoxe.
Donc, ne t'inquiète pas.
L'évolution du temps fait ceci, c'est qu'évidemment des séries qui durent depuis très longtemps ont besoin soit de se réinventer, soit de continuer dans leurs incroyables aventures, de continuer à proposer la même chose. Or, vu que le type de gameplay qui est proposé par Castlevania est devenu relativement obsolète, plus des masses de jeux de scrolling, ne serait-ce que maintenant, je veux dire, d'accord, il y a un retour vers ça, mais pas un jeu où on est volontairement dans un personnage qui est presque un handicapé.
On pourrait pas penser donc à un espèce de retour façon Megaman 9 et 10 pour la saga Castlevania?
Mais je crois qu'ils l'ont essayé et on peut pas nécessairement... Je veux dire, est-ce qu'on est actuellement en train de voir des Castlevania téléchargeables? Je veux dire, il y a eu le...
C'est vrai.
Il y a eu la version Symphony of the Night à 4 joueurs sur 360 et PlayStation 3, qui, de manière assez remarquable, était absolument nul. Je veux dire, c'était un jeu buggé jusqu'à la moelle, qui était mal foutu, qui avait même des problèmes du genre, tu es 3, tu finis par être 4, le quatrième se déconnecte, il ne peut pas se reconnecter parce qu'il y a un bug dans le netcode. Des boss qu'on pouvait bloquer en niant. Alors il y a des choses comme ça, c'est pas pardonnable. Cependant, voilà. Si tu as d'un côté le « on va continuer à faire des jeux téléchargeables », ils vont certainement trouver un moyen de continuer à ce que ce soit profitable, ils vont simplement le faire à bas budget. Et si tu dois continuer absolument à faire des incroyables sequels next-gen de pourriture incroyable où finalement il se trouve que je ne sais même pas, mais c'est un jeu, on pourrait le spoiler, que les gens n'auraient plus du tout envie d'y jouer. Il y a moyen, je sais pas si c'est absolument nécessaire, mais disons ceci, c'était une insulte pour l'intégralité du truc, et le fait est que faire des jeux pataux qui n'ont pas beaucoup de classe, qui n'ont pas beaucoup de charme, et qui n'ont finalement Castlevania que le nom, est-ce qu'on en a nécessairement besoin dans le futur ? La question se pose.
Bah, franchement, non.
Série en mauvaise posture, oui, mais Konami, n'ayant pas assez de grosses licences, fera forcément un effort pour le remettre à jour, encore une fois, probablement pour la prochaine génération. Ça te donnera peut-être, effectivement, encore une fois, un mélange foireux de Devil May Cry et de Shadow of the Colossus, dont on a gardé que les morceaux qui faisaient sens d'un point de vue de « on va en tirer un opus next-gen ».
Finalement, on croira entendre le bilan qui ressort de 10 ans de, comment dire, de Sega et Sonic. C'est assez terrible, mais finalement...
Mais Sega et Sonic, le problème, c'est plus qu'ils ne font pas qu'ils n'ont pas réussi à trouver un moyen d'égaler ce qu'ils faisaient avant. Alors, on peut dire ça comme on veut, mais Sonic 2, Sonic 3, c'était un excellent jeu. C'était des excellents jeux qui étaient basés sur l'improbable réussite d'une suite qui va simplement porter le premier à ses sources. C'est-à-dire, on va faire encore plus vite. D'accord. Sonic, allait vite. Konami, vu qu'ils sont dans une situation avec Castlevania où ils savent pas nécessairement quoi faire, et le fait est que leur gameplay est devenu antique. Tandis que Sonic, on peut se dire, il y a quelque part une once, une particule élémentaire de Sonic.
Ça reste un jeu de plateforme. Ça reste un...
Voilà.
Il y a quelque chose qui peut encore faire écho chez les joueurs d'aujourd'hui.
Tant que la question, c'est d'aller de gauche à droite très vite en évitant des obstacles, il y a quelque chose dans ton cerveau primaire, dans ton cerveau jurassique, qui normalement...
Je veux que ça fonce.
Voilà, je vais aller vite. Mais tandis que Castlevania, c'est j'ai froid, j'ai faim, peut-être que dans ce mur il y a du poulet, on ne sait pas pourquoi.
Je veux survivre.
Je veux survivre, et je vais survivre à ma sciatite.
Très bien.
Voilà.
Eh bien, merci beaucoup mon cher docteur pour ce panorama de la saga Castlevania.
Écoute, cela m'a fait très plaisir de parler avec toi, surtout fais attention en t'en allant, tu sais, la porte fait un peu de bruit. Ferme-la derrière toi, et on se retrouvera certainement pour plus d'aventures de vie.
On se retrouvera prochainement, j'en suis certain. Allez, au revoir.
Au revoir.